Bonjour, nous sommes le 15 juillet, jour après la célébration de notre fête nationale. Cette fête nationale, limitée à un défilé militaire, dans lequel 500 soldats de la coalition des volontaires étaient présents, 25 Ukrainiens, bref, où la France a pris parti pour une politique de va-t-en-guerre vis-à-vis de la Russie et de la Chine, qui, à sa manière, soutient la Russie. C'est une grave erreur par rapport à ce que constitue l'histoire de notre pays. Parce que l'histoire de notre pays, c'est l'histoire d'un État qui, déjà sous la monarchie, n'est pas un État qui appartient à quelqu'un, qui appartient au roi ou qui appartient à la noblesse. C'est un État qui est géré par le roi, au nom du peuple. Et puis la Révolution française, et j'ai rappelé hier, que dit notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Et c'est cet aspect de la continuité de notre histoire qui est absolument fondamental et que la plupart des souverainistes, je dois dire, ne comprennent pas. Pourquoi ? Parce que dans la Révolution française, où il y a eu à la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, sous la direction devenue ensuite défaillante de Lafayette, il y a eu cette tentative de cohésion nationale et de vision antiféodale. Et puis, qu'est-il arrivé ? Les hommes de Londres, avec Olivier Blanc, l'influence britannique, et la stupidité, la corruption, les assignats. Cette immense spéculation de l'époque, que l'on revoit aujourd'hui dans l'immense spéculation financière, qui est non pas le produit d'une situation, mais ce qui produit la situation, ce qui entraîne, pour les gens qui dominent cette pyramide financière, le désir de faire valoir leurs intérêts et de continuer en place jusqu'aux dernières violences, gouvernées par la peur, gouvernées par la guerre. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et au défilé des Champs-Élysées, nous avons le président de la République qui accepte de s'afficher, qui affiche les gens de cette direction-là, qui vont dans ce sens-là. Alors aux États-Unis, ce qui arrive, c'est le National Defense Act, avec à la Chambre des représentants un amendement 219 et 12-17 au Sénat. Tous disent il faut qu'Israël et les États-Unis travaillent ensemble, s'unissent dans leur renseignement, dans le militaire. C'est une sorte de, je dirais, conjonction absolu entre les États-Unis et Israël. Ce qu'on a vu dans la guerre contre l'Iran et avec les résultats du massacre illégal, inutile, criminel et stupide produit par cette politique-là. Alors, pensons aux hommes de Londres d'Olivier Blanc et voyons cette situation aux États-Unis. Qui a inspiré cela ? Sir Richard Yarlove, la personne qui a dirigé en Angleterre et qui est un peu le cerveau du MI6. Donc on a cette même chose qu'on a vue pour dévier la Révolution française, qui maintenant s'efforce de dévier toute l'histoire américaine. D'où l'enjeu extrêmement important de ce qui se passe aux États-Unis. Alors, il y a des réactions. Le plus caractéristique, c'est celle d'Adam Smith, un représentant qui a été toujours complaisant vis-à-vis des politiques américaines, l'alliance avec Israël, qui maintenant se retourne et dit « Non, on va trop loin, c'est dangereux. » Plus intéressant, Thomas Massie, un élu républicain, qui lui dit qu'il faut arrêter l'union entre, c'est prévu au Sénat et à la Chambre des représentants, pour s'unir les États-Unis et Israël. Et puis, Ro Khanna, c'est plus intéressant. Thomas Massie est un républicain, Ro Khanna est un démocrate. De tous côtés, il y a cette orientation. Ro Khanna va en Cisjordanie pour voir les choses de près. Il est un représentant du gouvernement américain, il est un élu. Il se fait arrêter par la police israélienne qui le bouscule. Pas par la police, pardon, par l'armée israélienne qui le bouscule, avec les colons qui avaient signalé sa présence. Et c'est après un certain temps seulement la police israélienne qui le libère. Ro Khanna dit « Je vois ce qu'on m'a fait à moi, représentant des États-Unis, quand je suis en Israël, en Cisjordanie. Que fait-on donc aux Palestiniens ? Là, j'en ai pris conscience. » Intéressant comme prise de conscience aux États-Unis. Plus, je dois dire, les gens seront choqués, dont les gens qui voient tous les malheurs du monde venus de l'islam et des musulmans. Un excellent discours de Mondani aux États-Unis. Mondani, c'est l'élu maire de New York, qui dit « L'histoire américaine, c'est une histoire qui a été celle des pères fondateurs, qui était une histoire où il y avait certes, tout n'était pas parfait, mais il y avait une impulsion pour la République. Et il cite lui-même la vie, la liberté et la poursuite du bonheur, la recherche du bonheur. C'est la déclaration d'indépendance américaine. Il dit, par rapport à cela, nous ne l'avons pas toujours fait, mais c'est la ligne directrice de notre pays. Et je pense qu'en France, notre ligne directrice, ce que porte le préambule du 27 octobre 1946 de notre Constitution, repris en 1958, ce qui signifie une sorte de, je dirais pas de compromis, mais de dénominateur commun entre la doctrine sociale de l'Église et les ambitions marxistes de l'époque. Et si l'on ne comprend pas cela, on ne comprend pas toute l'histoire de notre pays, d'où il vient et sa racine. Et on se livre aux puissances de va-t-en-guerre, aux puissances militaires, qui risquent de nous entraîner, par erreur, par excès, par arrogance, vers une situation de guerre en Europe et peut-être une guerre nucléaire dans le monde. Alors, on le voit avec l'Allemagne. Les Allemands vont acheter des Tomahawk américains, des missiles qui peuvent pénétrer en profondeur en Russie, et en plus, ils les payent 1,2 milliard de dollars. Nous avons cette doctrine de pénétration profonde, dissuasion avancée, d'Emmanuel Macron, qui dit on ne déploiera pas, contrairement à ce qu'il avait dit auparavant, de soldats français en Ukraine, sauf après qu'il y ait la paix, mais on va développer en Europe, de façon conjointe, des armes de pénétration à longue distance en Russie. Eh bien, ce n'est pas les Tomahawk américains, mais c'est comme si on allait dans la même direction. L'idée, c'est de pouvoir intimider, par des moyens, disons, très avancés mais conventionnels, une puissance nucléaire qui est une des deux grandes puissances du monde. C'est absurde. C'est absurde militairement, c'est absurde intellectuellement. Alors que la cause des guerres est précisément ces spéculations financières insensées et les gens qui, aux États-Unis, forment cette sorte de complexe. Eisenhower parlait en 1961 du complexe militaro-industriel. Ce n'est plus cela, c'est un complexe techno-militaro-financier qui domine les États-Unis et auquel on se soumet. Alors, les Européens sont va en guerre en Ukraine, Trump l'a été moins. Mais l'idée des Européens, c'est d'entraîner Trump et son entourage, la partie de son entourage qui va en guerre en Ukraine, de l'entraîner dans cette guerre-là. Alors, les Européens n'ont pas les moyens, mais les gens autour de Trump, oui. Et c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que, de leur côté, les Israéliens entraînent Trump dans la guerre en Iran. De l'intérieur commun, la guerre. Et on est dans ce danger-là. C'est pour ça que j'ai fait ma déclaration en 12 points, pour que la France retrouve sa voix dans le monde et qu'elle défende la paix. Le premier devoir, c'est que la France participe activement à une politique de paix par le développement mutuel, avec le développement mutuel, donc, et la sécurité mutuelle. Une sécurité qui n'est pas simplement celle d'aller et de venir. C'est une sécurité sociale, c'est une sécurité économique, c'est une sécurité que chacun ait une vie meilleure dans les générations à venir. Et aujourd'hui, bien sûr, aussi. Donc, c'est cette vision du futur dont nous manquons totalement. Et ce défilé sur les Champs-Élysées était de ce point de vue une des choses les plus choquantes à voir, et la faiblesse des hommes politiques français, avec un Macron qui embrasse physiquement sa conduite physique avec Zelensky, vraiment aberrante, et un Bardella qui va rencontrer Netanyahou en Israël pour prétendre qu'il n'est pas antisémite. Il va voir les gens comme Netanyahou, qui est d'ailleurs pas d'origine israélienne, du territoire israélien. Netanyahou parle plus l'hébreu avec l'accent de Brooklyn que d'autres, et quand même que le palestinien Barouti. Donc on a quelque chose qui est d'ordre universel, international, pour un mal qui a évidemment une implantation aux États-Unis, mais aux États-Unis comme un pays occupé par ses forces contre la tradition de la nation américaine. Ce que disait Washington, et pensez-y par rapport à Trump et par rapport à Macron. Washington, en partant, disait « Je laisse mon pays, je ne veux pas que mon nom apparaisse partout, je ne veux pas qu'on en parle. » Vous voyez la différence avec Trump. Et Washington disait « Je mets en garde contre le régime des partis qu'on utilisera pour détruire la cohésion nationale. » Aux États-Unis en particulier, à l'époque, l'unité nationale est essentielle, ce qu'a dit Lincoln aussi après. Mais Washington ajoutait « Je mets en garde contre ce que je vois apparaître comme des éléments de faux patriotisme. Bien, nous y sommes aujourd'hui, avec toute cette droite et d'extrême droite qui joue les crypto-monnaies, le bitcoin en France. Et de l'autre côté, une gauche et une extrême gauche qui, certes, est pour sortir de l'OTAN, qui, certes, est pour une France non alignée, qui, certes, propose des mesures sociales intéressantes, mais contre le nucléaire. Comment va-t-on promettre ces choses alors que le fondement de l'économie physique qui permettrait de les produire, on l'exclut. Donc, toute la politique française, hélas, aujourd'hui, est une politique, je dirais, d'apparence, d'incompétence et de vision de l'autre, y compris le migrant, comme un ennemi et pas comme un partenaire avec lequel on pourrait développer une nation. Une nation, mais aussi le monde. Dans ce système de paix par le développement mutuel, je répète encore une fois, et par la sécurité mutuelle. C'est de nous que dépend que cette espérance se réalise et qu'on mette en place cette politique qui réponde à la fois à l'intérieur de notre pays, vis-à-vis du monde, à ce que devrait être la politique de la France, si la France était la France. C'est cela que nous voulons faire pour que le soit à nouveau. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui.